Les cours du Collège de France, Xavier Leroy, chaire Sciences du logiciel.
Donc bonjour à tous et bienvenue à ce huitième et dernier cours sur le thème des structures de contrôle. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des logiques de programme et de leurs interactions donc avec ces structures de contrôle et les différentes manières de gérer les effets dans les langages de programmation. Alors, je vais commencer par un petit rappel sur à quoi servent ces logiques de programme. Donc, elles s'inscrivent dans le cadre de la vérification déductive de logiciels. Et donc, c'est une technique qui consiste à noter les programmes par des assertions logiques qui décrivent ce que le programme est censé faire. Alors, typiquement, on a les préconditions, c'est les propriétés attendues sur les entrées, des post-conditions qui vont être les garanties fournies sur les sorties du programme, et puis des invariants, des propriétés qui resteront vraies dans toutes les exécutions, souvent associées aux boucles, mais aussi aux structures de données comme les objets. Alors ici, vous avez un petit exemple de spécification d'une fonction C qui met à zéro un tableau A de longueur N. Et la spécification est écrite dans le langage ACSL de l'environnement Framasy. Et donc vous voyez, en précondition, il faut que la mémoire aux adresses A plus 1 jusqu'à A plus N moins 1 soit valide, soit allouée et pas encore libérée. La spécification dit que les cases mémoire en question vont être modifiées et que, en sortie de la fonction, toutes les cases A de I, pour I variant entre 0 et N, seront bien égales à 0. Donc on a décrit ce que doit faire le programme en question. Et puis la deuxième étape, c'est de vérifier la cohérence logique de ces annotations. Vérifier que les préconditions impliquent les invariants et que les préconditions et les invariants impliquent les postconditions le long de tous les chemins d'exécution possibles dans le programme. Et c'est là qu'il y a un lien avec les structures de contrôle, c'est-à-dire qu'il faut que cette vérification prenne en compte tous les chemins possibles dans le programme. Alors, traditionnellement, il y a deux approches, l'approche dite de Floyd et l'approche dite de Hoare. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de l'approche dite de Hoare. Mais juste pour mémoire, donc l'approche de Floyd, publiée par Robert Floyd dans cet article absolument génial de 1967, Assigning Meanings to Programs, mais où en fait, les grandes idées étaient déjà présentes dans une note de Alan Turing de 1949, tout aussi géniale, et qui, comme beaucoup de... juste en trois pages, l'idée est présentée. Et comme beaucoup des travaux d'Alan Turing, ils ont été complètement oubliés jusqu'aux années 1980-1990, où on a enfin publié sérieusement toutes ces archives. Donc, l'approche de Turing et de Floyd, c'est de partir d'un graphe de flux de contrôle, donc un organigramme, d'accord, et d'annoter les arcs par des assertions logiques, donc des affirmations sur, par exemple, les valeurs des variables quand cet arc est suivi. Et ensuite, il y a des règles qui permettent de vérifier la cohérence de ces annotations sur chaque nœud du graphe de flot de contrôle. Par exemple, si vous avez un point de jointure, alors l'assertion Q sur l'arc sortant, elle doit être impliquée par chacun des arcs entrants. On ne sait pas par où on rentre, donc il faut que si P1 est vrai, ou P2 est vrai, ou P3 est vrai, alors Q soit vrai. Si vous avez une construction conditionnelle, un test avec deux sorties, Q1 si P est vrai, Q0 si B est faux, eh bien, l'assertion sur l'arc entrant P et le fait que B est vrai doit impliquer l'assertion sur l'arc Q1 sur l'arc de sortie vrai, et l'assertion P et non B doit impliquer l'assertion Q0 sur l'autre arc de sortie. Et puis, il y a une règle un peu compliquée pour traiter l'affectation. Donc, si vous, dans X, vous mettez le résultat d'une opération qui implique X et d'autres variables Y, par exemple, X reçoit X plus Y, alors il faut donc il faut en fait dire qu'il existait une valeur X0 de X avant l'affectation, et que la nouvelle valeur X est F de X0 et de Y, et que l'assertion sur l'arc entrant P était vraie de ce X0. Et tout ça doit impliquer l'assertion sur l'arc sortant. Bon. Les détails des règles ne sont pas très importants. Ce qui est notable, c'est qu'une fois que toutes ces implications ont été montrées, ça veut dire que toutes les assertions sont vraies pendant toutes les exécutions du programme, quel que soit le nombre de tours de boucle, etc., quel que soit le chemin suivi à l'intérieur du graphe de flot de contrôle. Et l'approche qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est l'approche de Hoare, introduite donc par Tony Hoare dans un très bel article également de 1969, qui prend une approche beaucoup plus axiomatique et qui s'appuie sur un programme présenté sous forme structurée, avec un contrôle structuré. Donc l'idée de Hoare, c'est que vérifier un programme, ça va être démontrer certaines propriétés à l'intérieur d'une logique de programme, une logique adaptée, de la même manière que la logique mathématique est ce qui vous permet de démontrer des énoncés mathématiques sur des définitions mathématiques. Donc la logique de programme, ça va être des axiomes et des règles de déduction qui permettent d'établir des propriétés vraies de toutes les exécutions des commandes d'un langage impératif à contrôle structuré. Et c'est là qu'on voit apparaître le lien fort entre structure de contrôle et programmation structurée. La forme de la vérification va suivre la structure du programme, et les axiomes et les règles de la logique doivent décrire chacune des structures de contrôle du langage. Alors, donc ça prend la forme de ce qu'on appelle les triplets de Hoare, parce qu'il y a trois composantes, P, C et Q. C, c'est une commande d'un langage impératif structuré, un petit algol si vous voulez. P et Q, ce sont des assertions logiques portant sur les variables du programme, un peu comme les assertions qui décorent les arcs dans l'approche de Floyd. P, c'est la précondition, elle est supposée vraie avant qu'on commence à exécuter la commande C. Et Q, c'est la postcondition, elle va être garantie vraie après l'exécution de C. Alors en fait, il y a deux variantes, donc il y a la logique dite faible et la logique dite forte. La logique dite faible, celle qu'on va utiliser aujourd'hui, ne garantit pas la terminaison de la commande C, donc elle vous donne uniquement des propriétés de correction partielle. Donc si P est vrai avant l'exécution de C, et si C termine, alors Q est vrai après, et vrai de l'état du programme quand C s'arrête. La logique de Hoare forte garantit en plus que la commande termine toujours. Bien, et à quoi ressemblent ces fameuses règles et ces fameux axiomes de la logique de Hoare? En voici quelques-uns. D'abord pour les constructions de contrôle structuré. Donc là, on a la séquence, C1 suivi de C2, la conditionnelle et la boucle while. Et donc pour une séquence C1, C2, donc si on suppose la précondition P, il faut qu'il y ait une assertion intermédiaire Q, telle que P, C1, Q soit approuvable. Donc si C1 termine, alors Q est vrai, et la Q va servir de précondition pour exécuter C2, puisque si C1 termine, on va enchaîner sur l'exécution de C2, et C2 doit garantir la postcondition R, qui est aussi la postcondition de la séquence. Pour une conditionnelle, if B then C1 else C2, donc les deux branches C1 et C2 doivent garantir la postcondition Q. Et pour démontrer le triplet pour C1, on peut supposer non seulement la précondition du if, mais aussi le fait que B est vrai, parce qu'on ne va pas exécuter C1 si B est faux. Et de même, pour vérifier C2, on peut supposer que B est faux, en plus de la précondition P. Enfin, pour la boucle while, donc cette idée que la précondition P va servir en fait d'invariant, donc va devoir être rétablie, préservée par chaque tour de boucle. Donc, le corps de la boucle C est vérifié avec comme précondition P et B, puisque si la condition d'arrêt B est fausse, on n'exécute pas C. Donc, c'est en supposant P et B, il faut montrer que C garantit la postcondition P, donc rétablit l'invariant de boucle. Et à ce moment-là, donc P va rester vrai pendant toutes les itérations de la boucle, et quand la boucle termine, c'est que B est devenu faux, et donc on a P et non B comme postcondition. Donc voilà le genre de raisonnement qu'on peut faire. On va voir un exemple assez rapidement. Et puis, alors je ne vous ai pas montré les axiomes, donc il y en a essentiellement deux. Donc pour la commande vide, skip, la commande qui ne fait rien, la précondition est égale à la postcondition, l'état mémoire ne change pas. Et pour l'affectation, il y a cette règle un petit peu délicate, que donc si vous avez une affectation, x reçoit e et une postcondition q, donc q va mentionner la variable x, d'accord. Et pour qu'elle soit vraie après l'affectation, il suffit qu'elle soit vraie avant, non pas pour tous les x, mais juste pour la valeur e qu'on vient de mettre dans x. D'accord. Et enfin, il y a cette règle dite de conséquence qui permet de qui donne de la flexibilité donc, pour utiliser ces différentes règles et qui permet aussi de remplacer donc, les prêts et les post-conditions par des prêts ou des postes équivalentes ou plus fortes ou plus faibles. Donc essentiellement, si vous avez montré un triplet P'CQ', vous pouvez toujours renforcer la précondition, remplacer P' par un P qui implique P', et affaiblir la post-condition, remplacer Q' par un Q qui est impliqué par Q', ça restera vrai. Alors, vite un exemple, voilà. Donc c'est en fait, c'est l'exemple classique de la division euclidienne par, en itérant la soustraction. Donc tant que le reste est trop grand, on soustrait B, donc on calcule A divisé par B. Tant que le reste est trop grand, on soustrait B, on incrémente le quotient. Alors c'est un exemple que vous trouvez à la fois dans l'article de Floyd et dans l'article de Hoare, donc très classique. Et donc là, il y a le code à gauche, et à droite, il y a les annotations par des assertions logiques, donc sur les variables A, B, R et Q. Et en fait, ça se lit plutôt en partant de la fin. Donc à la fin, on veut garantir que Q, c'est le quotient de A par B, et R, c'est A modulo B, le reste. Et ça, ça va être impliqué par la caractérisation d'Euclide. Donc A, c'est BQ plus R, avec R qui est entre 0 et B. Et en fait, l'invariant de la boucle, ça va être les deux premiers membres de cette conjonction, donc A égale BQ plus R, et R est positif ou nul. Et la partie R strictement inférieure à B sera obtenue par le fait que la boucle s'arrête. Donc cette condition-là est fausse. Bien, et cet invariant, il n'est pas difficile de voir qu'il est vérifié quand on soustrait B à R et qu'on ajoute 1 à Q. Et du coup, il faut l'établir pour le premier tour de boucle, quand on rentre dans la boucle, et c'est facile parce qu'on a initialisé R, A et Q à 0. Et en fait, la seule précondition qui reste, c'est que A doit être positif ou nul. Que sinon, on finirait avec un reste qui est strictement négatif. Et si vous êtes attentif, vous voyez qu'il n'y a pas d'hypothèse sur B. Donc ce code fonctionne même si B est égal à 0. Et pourtant, on ne peut pas diviser par 0. C'est quoi le truc? Le truc, c'est que c'est une vérification faible de correction partielle, et que si B est 0 ou strictement négatif, cette boucle ne termine jamais. Voilà. Bien, donc ça c'était le petit rappel sur la logique de Hoare et la vérification déductive de programme. Et maintenant on rentre dans le vif du sujet du cours d'aujourd'hui, qui est comment toutes ces idées s'étendent aux différentes structures de contrôle avancées qu'on a vues dans le cours. Donc on va commencer juste par des extensions de la logique de Hoare, par exemple à d'autres formes de boucles que la boucle while-do. Par exemple, vous pouvez facilement construire une règle pour la boucle do-while, celle qui a un test d'arrêt à la fin de chaque itération et non pas au début, comme on a en Java ou en C. Donc l'idée, c'est un peu la même, c'est que la précondition de la boucle, ça va être un invariant de la boucle, donc qui va être vrai au début de chaque exécution du corps de la boucle C. En revanche, donc maintenant C va avoir une postcondition Q, et il faut que si la condition B est vraie et qu'on réexécute la boucle, donc Q et B impliquent P, il faut que l'invariant de la boucle soit rétabli. Et on sort de la boucle quand B est faux et en ayant établi Q. Alors il y a plein d'autres formes de boucles que vous pouvez spécifier comme ça. Par exemple, j'aime bien la boucle ADA avec une sortie au milieu. Donc ça ressemble à une boucle infinie, loop end, et puis au milieu, entre les commandes C1 et C2, vous pouvez avoir un exit when B qui arrête la boucle. Et donc là, on va vérifier ça un petit peu comme une séquence. Donc C1 va partir de P et avoir post-condition Q. Maintenant, si B est vrai, on va sortir, donc ça veut dire que Q et B seront vrais à la sortie de la boucle. Et si B est faux, on va exécuter C2. Donc C2 a pour précondition Q et non B, et doit rétablir l'invariant de boucle P. Troisième exemple, la boucle comptée, la boucle for. Alors celle-là est intéressante parce que, avec quelques précautions, on peut garantir la terminaison facilement de cette boucle. D'accord. Donc on peut dériver un triplet for, et non pas les triplets faibles qu'on a ici. Donc for, marqué avec des crochets, c'est-à-dire qui garantit la terminaison. Donc, pour la boucle for i égale l to h, donc on a un invariant p qui mentionne la variable i, donc il doit être vrai au début quand i est égal à l, la borne basse, la valeur initiale de i. Et maintenant, chaque itération c du corps de la boucle doit partir de l'invariant p qui est vrai pour un i, lequel est inférieur ou égal à h, le haut, la borne haute, et établir l'invariant P pour la prochaine valeur de I, c'est-à-dire P ou I remplacé par I plus 1. Et pour garantir la terminaison, il faut juste être sûr que I et H ne sont pas modifiés dans C. Si C décrémente l'indice de boucle, par exemple, à chaque tour, ben, on ne va pas terminer. Ou si C incrémente la borne H, la borne haute à chaque tour, on ne va pas terminer non plus. Donc, mais si I et H ne sont pas modifiés par C, la terminaison est garantie. Et la postcondition, bien sûr, ben c'est P pour la valeur finale du I, qui peut être H, qui est strictement supérieur à H. C'est tout ce qu'on peut dire ici. Voilà. Bien. Autre exemple de structure de contrôle qui se décrit très facilement en logique de Hoare, c'est le non-déterminisme. Par exemple, une construction qui tire un nombre non spécifié entre 0 et n-1, donc x reçoit choose de n. Si la postcondition est Q, en fait, la postcondition Q, il faut qu'elle soit vraie pour tous les choix possibles de X, c'est-à-dire pour 0, pour 1, pour 2, pour 3 et pour N-1. Et donc, ça donne cette précondition pour tout I entre 0 et N-1. Q, où X est remplacé par I, doit être vrai. Autre exemple de construction de non-déterministe, c'est la conditionnelle gardée de Dijkstra. Donc c'est une généralisation du if, else, if, else, if, else, end, où donc il y a plusieurs conditions BI et plusieurs actions associées CI, et on ne dit pas laquelle va être prise. Une des actions CI va être exécutée si sa condition BI est vraie, mais on ne dit pas laquelle. D'où le côté non déterministe. Et alors c'est une très jolie règle qui dit qu'en précondition, il faut P et la garantie qu'au moins une des conditions est vraie, donc un des BI est vrai. Et du coup, pour chaque CI, on va le vérifier en supposant P et BI, et il faut qu'il établisse la postcondition Q. Voilà, donc des règles qui sont très simples. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, qui est, peut-on faire une logique de Hoare pour le go-to ? Et là, ça va être plus difficile. Hoare prévenait déjà dans son article de 69 qu'il y aura des points de difficulté pour étendre son approche aux étiquettes, aux sauts, aux pointeurs et aux paramètres de fonctions, de procédures passées par nom. Et comme il fait remarquer, oui, vraisemblablement, on va avoir des preuves de programme qui vont être compliquées. Et du coup, c'est pas surprenant que ce soit reflété dans la complexité des axiomes de la logique qui vont décrire ces constructions. Et en effet, donc de quel go-to on parle ? On parle du go-to d'Algo 60, celui où les étiquettes sont déclarées à l'intérieur de blocs et on se bloque pour portée. Et donc, on peut faire go-to L depuis le même bloc qui définit L, ou depuis un sous-bloc, mais pas depuis l'extérieur du bloc. L'extérieur du bloc n'a pas ne voit pas l'étiquette L. Et donc l'idée elle est relativement simple, c'est que chaque étiquette L va avoir une précondition R, qui est en fait la précondition de la commande qui suit immédiatement L. Et maintenant, chaque go-to de L doit établir cette assertion R, et donc R est forcément la précondition de chaque go-to de L. En revanche, la post-condition d'un go-to de L est quelconque, puisque go-to de L ne termine jamais normalement, on va jamais exécuter le code qui suit immédiatement là, et donc typiquement on prend faux comme post-condition, qui est la post-condition la plus forte, celle qui implique toutes les autres. Mais la difficulté, donc, c'est de faire correspondre ce R ici, qui est la précondition du code qui suit immédiatement la déclaration de l'étiquette, avec tous les go-to de L correspondants. Et donc, 2 ans après son article initial, donc Hoare et son co-auteur Clint publient enfin une règle. Et la règle est assez jolie, en fait. Donc, on considère un bloc, begin-end, qui a une commande C1, déclare l'étiquette L et une commande C2. Et l'idée, c'est qu'en particulier, s'il n'y a pas de go-to, ça doit se comporter un peu comme une séquence, C1 suivie de C2. Donc la précondition P va être la précondition de C1, Q va être la postcondition de C2, et au milieu, on aura une assertion intermédiaire R, qui est vraie à la fin de C1 et au début de C2. Et ce R, c'est le R aussi qui est associé à l'étiquette L. Et donc, on va vérifier C1 et C2 sous une hypothèse supplémentaire que ce triplet est vrai. Le triplet R, go to de L, false, est vrai. On peut s'en servir quand on rencontre des occurrences de go to de L dans C1 et dans C2. Et notez encore une fois donc, que la postcondition false nous permet de dériver en fait R go to L de Q pour n'importe quelle postcondition Q. Donc on n'a pas perdu en généralité. C'est une règle qui est vraiment élégante. Elle a été critiquée ensuite, en particulier cet article de O'Donnell, près de 10 ans après, en 1982, qui dit que bon, il y a quelques points qui mériteraient d'être clarifiés. D'abord, si vous avez des blocs imbriqués, vous pouvez avoir plusieurs étiquettes L, normalement, et il faut que ce soit celle qui est la plus interne qui gagne. Donc, donc quand vous êtes à l'intérieur de ces deux blocs imbriqués, vous avez en fait deux hypothèses, R1 go to L false, R2 go to L false, et en fait, il n'y en a qu'une des deux qui est valide. Bon. Mais surtout, ce symbole-là de tourniquet, X tourniquet Y, il faut faire très attention à la manière dont on l'interprète. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je viens de prononcer. Est-ce que j'ai dit implique ? Non, implique, ce n'est pas bon du tout. Donc, il faut lire ça comme une dérivation hypothétique en déduction naturelle. Donc, en supposant qu'on sait dériver R go to L de false, on arrive à dériver, donc à partir de cette hypothèse supplémentaire et des règles et des axiomes de la logique dehors, on arrive à dériver cette conclusion. Parce que si on lit ça plutôt comme une implication, X implique Y, en fait, c'est relativement c'est bizarre parce que on pourrait tout à fait dire bah, X et Y sont faux tous les deux. En particulier parce qu'il n'y a aucun axiome de la logique dehors qui nous permet de conclure que P go to de LQ est vrai. Donc on peut très bien prendre un modèle où c'est toujours faux, d'accord, et du coup valider quelque chose comme ça. False go to de L false implique true go to de L false. Les deux sont faux dans le modèle. Et une fois qu'on a ça, ben on a perdu parce que ce code, go to de L, L de point skip, qui se comporte comme skip, a maintenant est vérifié avec la postcondition false et la précondition true, et c'est pas possible. Donc voilà, donc ce type de règle est élégant mais un petit peu difficile à manipuler. Et c'est pour ça que il y a eu plusieurs articles ensuite, fin des années 70, début des années 80, tous publiés dans Acta Informatica, étonnamment, pour améliorer, préciser la règle de Clint et de Hoare. Et l'idée donc de Harbi, Malagic et Debrun, alors c'est pas le Debrun des indices de Debrun ou de Automate, c'est un autre Debrun, sans J celui-là. Donc leur idée c'est de dire que le go-to, en fait il faut le voir ça comme un autre moyen de sortir de l'exécution d'une commande C. Il y a le moyen usuel qui est de terminer la commande, et l'autre qui est de faire go-to une étiquette L. Et si ça donne un autre moyen de sortir, ça veut dire qu'il a besoin d'une autre postcondition. Donc on va faire maintenant un quadruplet de OR, P, C, Q, J, où J, c'est une fonction des étiquettes dans les assertions, et donc J de L, pour une étiquette L, ça va être la postcondition, une assertion qui est vraie, si la commande C termine par go to de L. Et donc, elle peut être affaiblie, comme toutes les postconditions, comme Q, notamment, dans la règle de conséquence. Et pour toutes les commandes qui terminent toujours normalement, comme skip ou l'affectation, la postcondition, elle est fausse. On ne sort jamais par un go-to de L, donc on peut prendre faux comme J de L pour tout L. Et quand vous avez des séquences ou des conditionnels, J est partagé entre les sous-commandes, puisque si C1 ou C2 font go-to de L, eh bien on va sortir de la séquence ou de la conditionnelle avec la postcondition associée. GoTo de L, lui, a toutes ses postconditions fausses, en particulier sa postcondition normale, Sauf la postcondition J de L, qui est sa précondition P. Donc un goto de L sort avec l'étiquette L en garantissant P. Et maintenant, si vous avez un bloc qui définit L, l'étiquette L, avec une précondition R, les sorties sur goto de L dans C1 et dans C2 doivent satisfaire R, et donc on met à jour l'environnement J, jump, pour que la postcondition qui doit être garantie pour L, c'est R. Et bien sûr, pour C1, la postcondition normale, c'est aussi R. Donc voilà, donc ça c'est une approche qui est notationnellement un peu plus lourde que celle de Clint et Horn, mais on est obligé de changer la forme du triplet, qui n'est plus un triplet, mais au moins on sait exactement de quoi on parle. Et en fait, cette idée qu'une commande peut s'arrêter de plusieurs manières différentes et que pour chaque manière il va falloir une postcondition, elle est très, très générale. Vous pouvez l'appliquer à d'autres constructions, comme break, par exemple, la sortie prématurée de boucle. D'accord. Donc là, j'oublie le goto pour une seconde, donc je reprends mon langage d'origine et je rajoute break pour sortir des boucles while. Du coup, j'ai un quadruplet dehors, j'ai deux postconditions, Q en sortie normale, B en sortie par break. On voit ça sur la règle du break, qui, sa postcondition normale, c'est false, parce qu'il sort jamais normalement. Sa postcondition de break, c'est sa précondition P. Et maintenant, pour vérifier la boucle while, eh bien, le corps de la boucle est vérifié avec Q, la postcondition de la boucle, comme postcondition de break. D'accord ? Et ça permet de donner du sens à des variantes de la boucle while, comme le while do else de Python, que j'ai toujours du mal à comprendre, mais enfin, qui est très utile, mais la syntaxe est un petit peu surprenante. Donc l'idée de while b do c else c', c'est que c' va être exécuté si la boucle termine normalement, c'est-à-dire termine parce que b est faux, mais pas si la boucle termine par un break. Et du coup, donc si la postcondition de la boucle c'est Q, ça va devenir la postcondition de break de C. C doit rétablir l'invariant de boucle P, comme d'habitude. Et P et non B, qui est la condition quand on est sur le point de sortir normalement de la boucle, à ce moment-là, c'est la précondition de C', puisque C' va être exécuté, et qui doit garantir Q et B. Voilà. Donc vous voyez aussi comment en fait ces règles de Rohr permettent de comprendre la sémantique opérationnelle des constructions. D'accord. C'est un jeu dans les deux sens. C'est une autre manière de décrire ce que fait une construction. Et c'est d'ailleurs pour ça que Floyd et Rohr appellent leurs approches des sémantiques axiomatiques. Donc c'est aussi le moyen de donner une sémantique aux constructions du langage. Bien. Alors, d'accord, donc, pour faire les go-to, on a besoin d'une post-condition supplémentaire. Pour faire les break, on a besoin d'une post-condition supplémentaire. Pour faire les continue, il faut une post-condition supplémentaire. Pour les return aussi, pour les exceptions, et pour je sais pas quoi encore. Donc, pour éviter d'avoir une prolifération de post-conditions, puis terminer avec des septuplets dehors, des octuplets dehors, enfin bref, on va dire, il n'y a qu'une post-condition, mais elle est paramétrée par le type de sortie, par la manière dont on sort de la commande. Donc c'est une fonction donc des types de sortie dans les assertions, et les types de sortie, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Il y a la sortie normale, quand on arrive au bout de la commande, il y a la sortie prématurée par break ou continue, il y a la sortie prématurée par break de niveau n ou continue de niveau n, si vous avez des sorties multiniveaux, dont on a pas mal parlé au premier cours parce que c'est utile, donc il va de sortir de n niveaux de boucle. Vous avez une sortie return de v, si vous exécutez return avec une valeur V. Vous avez une sortie goto de L, si vous vous branchez à l'adresse L, et vous pouvez aussi avoir une sortie xn de E pour dénoter la levée de l'exception E. Et ce qui est joli, c'est que du coup, les règles pour les commandes qui font sortir, elles ont toutes exactement la même forme, c'est-à-dire que dans leur postcondition est fausse partout, sauf sur la manière dont elles sortent, qui est associé à leur précondition P. Par exemple, skip, qui sort normalement, associe P à la sortie normale, et false à tous les autres modes de sortie. Break, associe P à break de 1. Break de N, associe P à break de N. GoTo de L, associe la précondition P à GoTo de L. Et la levée de l'exception E, associe la précondition P à exception de E. Bon. Et maintenant, en fait, ce sont les structures de contrôle, pardon, qui vont, d'une certaine manière, gérer une ou plusieurs de ces modes de sortie. Par exemple, la séquence gère la sortie normale de la commande C1, en disant, donc la postcondition de C1, c'est la même que celle de la séquence, sauf pour la sortie normale, où il faut que R soit garanti, R étant la précondition de C2. La boucle, while, elle gère non seulement la sortie normale, mais aussi les sorties break et continue dans son corps de fonction C. Donc, son corps de boucle C, donc C a pour condition Q', c'est Q, sauf que la sortie normale doit garantir P, la sortie break de 1 doit garantir Q de norme, puisque si C fait break de niveau 1, on se branche tout de suite à la sortie de la boucle while. Donc break de 1, ça doit garantir Q de norme. Break de N plus 1, ça doit garantir Q de break de N. Le break se propage vers l'autre boucle englobante, mais du coup il a décrémenté son niveau de 1. Même chose, continue de 1, ça fait réexécuter le corps C, donc il faut que. Ça fait réexécuter le début de la boucle, test de B et exécution de C, donc il faut que l'invariant P soit garanti. Continue de N plus 1, ça fait sortir, mais il faut garantir que Q de continue de N est vrai. Et pour finir, il faut que P et non B garantissent Q du cas normal. Voilà. C'est pas fini, donc la déclaration d'une étiquette L va gérer la sortie goto de L. C'est la règle de Clint, la règle de Debrun et co-auteur. Donc C1 et C2 sont vérifiés sous, avec la postcondition qui dit que goto de L doit garantir R, R étant la postcondition de C1 dans le cas normal et la précondition de C2. Et enfin, si vous avez des gestionnaires d'exception, try-catch, eh bien, try-catch de E, pardon, ça va gérer la sortie EXN de E dans le corps C1. Donc, C1, s'il lève l'exception EXN de E, il faut qu'il garantisse la postcondition R. Et je me demande si j'ai pas oublié quelque chose, le fait que si C1 lève l'exception E... Ah ben si, justement. Si C1 lève l'exception E, ça va garantir la postcondition R, et R étant la précondition pour le corps C2, et lequel doit garantir la postcondition Q usuelle. Et toutes les autres manières que C1 a de sortir vont faire sortir du try-catch, et donc doivent garantir Q. Voilà. Ouf, c'est un peu subtil, mais on y arrive. Et pour ceux qui connaissent, ça se combine très très bien avec un calcul de plus faible précondition, un WP. Bien, alors, un peu plus compliqué maintenant, les coroutines. Et donc ça, c'est une règle, donc ça a été étudié par Clint, le co-auteur de Hoare, quelques années plus tard, toujours dans Acta Informatica, la revue des règles de déduction en logique de Hoare. Donc Clint s'intéresse à un modèle simple de coroutine asymétrique, quelque chose comme coroutine P égale C1 in C2. Donc C1, c'est le générateur, c'est le bout de code qui va faire yield, et C2, c'est le consommateur. Un bout de code qui va faire call, ou en Python, ça s'appellerait sans doute next, je crois, donc qui va de temps en temps repasser la main au générateur pour le faire travailler. Et donc le modèle, c'est on va commencer l'exécution par C2, et quand C2 va faire call de P, l'exécution de C1 démarre, ou reprend, là où elle était, où elle s'est arrêtée la dernière fois, c'est-à-dire après un yield. Maintenant, C1 va calculer un peu, et faire yield, yield de P, et ça va retransférer le contrôle vers C2, et donc le dernier call de P fait par C2, on va revenir du dernier call de P. Le calcul termine dès que l'un de C1 ou C2 termine, et alors il n'y a pas de passage explicite de valeur, contrairement aux coroutines de Python, au générateur de Python, on va juste utiliser des variables partagées pour communiquer entre C1 et C2. Alors un petit exemple tiré de l'article de Clint. Donc là, on a une coroutine dont le but, c'est pas tant de générer des valeurs, plutôt que d'enregistrer des observations faites par l'utilisateur, le consommateur. Donc l'utilisateur, il fait des observations, c'est-à-dire qu'il place des valeurs dans la variable ops, et puis il appelle la coroutine. Et la coroutine maintient un histogramme des valeurs qu'elle a vues. Donc il y a un tableau H à n cases, et on incrémente la case OBS, on incrémente le compte d'observation, et une fois qu'on a grand N observation, on s'arrête. D'accord ? Donc ça va arrêter le client une fois qu'il a fait toutes ses observations. Voilà, donc vous voyez ici donc la partie générateur, si j'ose dire, donc qui est une boucle tant que c'est plus petit que n, enregistrer l'observation et rendre la main, et puis le client donc, qui appelle de manière répétée ce générateur, avec diverses valeurs pour ops. Alors qu'est-ce qu'on a envie de vérifier sur ce code ? Ben, déjà on a envie de vérifier qu'on ne fait pas d'accès hors borne de ce tableau, donc le client doit garantir que les observations sont bien entre 0 et n, et puis on va voir qu'on peut garantir un petit peu plus. Mais avant, donc, quelle est la règle de Clint, proposée par Clint pour les coroutines ? Eh bien, donc, il propose d'associer deux assertions à la coroutine P, il y a A de P et B de P. A, ça va être la précondition du call de P, c'est ce qui doit être vrai quand on passe la main à la coroutine, au générateur. Et donc forcément, ça va être la post de yield de P, puisque il faut que le générateur la garantisse pour la prochaine fois où on va l'appeler, d'une certaine manière. Et B de P, ça va être la précondition de yield de P, donc c'est ce que le générateur garantit, avant de rendre la main à l'utilisateur. Et donc ça va être la post-condition de call de P. D'accord ? Et donc la règle de Clint, ben, c'est celle-ci. Donc on montre le triplet PC2Q pour la partie utilisateur C2, en supposant ce fameux triplet pour call de P, donc précondition A, postcondition B. Et donc c'est toujours la même notation, en supposant qu'ils avaient utilisé pour le GoTo. Et quid du corps de du générateur, quid de la partie générateur de la coroutine ? Eh bien, il doit vérifier le triplet AP C1Q. Alors pourquoi A ? C'est parce qu'on va démarrer C1 la première fois que C2 appelle P. Et donc, tout ce qu'on aura comme garantie, c'est que AP est vrai. Et pourquoi Q ? Et dans les deux cas, c'est parce qu'on arrête la coroutine quand C1 termine ou quand C2 termine. Donc, il faut bien que la post-condition Q soit vraie dans les deux possibilités. Et ce qui est plus important, c'est que donc la partie générateur, elle est vérifiée sous l'hypothèse que yield de P a ce triplet, BP comme précondition, yield de P, AP comme post-condition. Et c'est joliment symétrique, enfin cette symétrie, le fait qu'on les prêts de l'un et la poste de l'autre reflètent une certaine symétrie aussi dans le flow de contrôle autour de yield et de call. Donc qu'est-ce que ça donne sur notre exemple de coroutine là, qui maintient un histogramme ? Eh bien on va montrer qu'un invariant est vrai, donc l'invariant c'est que C est inférieur ou égal à N, on a vu au plus grand N observation, et que l'histogramme est relativement cohérent, c'est-à-dire que la somme des H de I, c'est bien C, c'est le nombre d'observations qui ont été faites jusqu'ici. Et dans la précondition du call, on va en plus, donc non seulement l'invariant doit être vrai, mais l'observation doit être entre 0 et N, afin de garantir que l'accès H de OBS est dans les bornes. Du coup, on a cet invariant et cette garantie quand on démarre la boucle while, et aussi quand on revient du yield de P, et donc c'est bien un invariant de la boucle while. Et ici, quand on incrémente la case OBS de H et puis le compte C, on a en fait rétabli l'invariant. D'accord ? Et donc on a le droit de faire yield de P. Et donc maintenant, l'invariant est rétabli après call de P et va pouvoir être passé ensuite au prochain call de P. Donc voilà le genre de vérif qu'on peut faire. Après, on peut aller plus loin, comme dans l'article de Clint, et si on a du code fantôme, on peut s'en servir pour tenir à jour une liste fantôme de toutes les observations qu'on a faites, et nous montrer que l'histogramme est bien cohérent, et le compte d'observations sont bien cohérentes avec cet historique des observations. Bon. Bien. Et pour finir cette partie, on va faire des threads. Alors, mais pas des threads quelconques, des threads coopératifs, donc où chaque thread est le seul à tourner jusqu'à ce qu'il fasse yield. Et à ce moment-là, on rend la main à l'ordonnanceur, au scheduler, qui peut choisir de redémarrer un autre thread ou de redémarrer le thread qui vient de faire yield, d'ailleurs. Et donc ça, on peut le modéliser comme suit, une commande run-end avec n sous-commandes, c'est un CN, qui vont être exécutées de manière pseudo-parallèle, c'est-à-dire en entrelacement. On commence par un des CI, on ne sait pas lequel, et ce CI va pouvoir faire yield à un moment pour offrir de passer la main à un autre CJ. Mais entre deux yields, chaque commande est la seule à tourner. Alors, un exemple de code qu'on peut écrire dans ce modèle, c'est un modèle producteur-consommateur. Donc ici, je fais tourner en parallèle un producteur et un consommateur. Le producteur donc, appelle une fonction produce, qui lui produit une nouvelle valeur. Ah oui, et elle communique via une boîte aux lettres. Donc la boîte aux lettres, c'est deux variables. Il y a une variable data, donc, qui est une valeur de type T, qui est en train de passer du producteur au consommateur, et un drapeau booléen full, qui dit si la boîte aux lettres est pleine ou vide. C'est-à-dire s'il y a une valeur dedans, valide dans data, que le consommateur peut utiliser, ou bien si le consommateur doit attendre que le producteur mette quelque chose dans la boîte aux lettres. Le producteur, qu'est-ce qu'il fait? Donc il demande à une fonction produce de lui produire une valeur de type T. Tant que la boîte aux lettres est pleine, il passe la main, il ne peut rien faire, donc il passe la main, il espère que ça va faire avancer le consommateur. Maintenant, la boîte aux lettres est vide et le consommateur ne tourne pas, ce n'est pas du vrai parallélisme, donc on peut tranquillement déposer X dans la boîte aux lettres et dire qu'elle est pleine et passer la main pour que le consommateur puisse la voir. Ou peut-être le consommateur la verra plus tard, c'est pas grave. Et que fait le consommateur? Ben, symétriquement, il attend que la boîte aux lettres soit non vide, en passant la main de préférence au consommateur, au producteur pour qu'il produise quelque chose. Et dès que la boîte aux lettres est non vide, alors il récupère la donnée partagée dans Y, il dit que la boîte aux lettres est vide, il repasse éventuellement la main au producteur, et il appelle une fonction consume sur la valeur Y qu'il vient de lire. Voilà. Et donc normalement, produce va produire une série de données et qui vont arriver l'une après l'autre dans consume. Alors, quelles règles on peut avoir pour vérifier ça? Ben, je vous propose cette règle-ci, qui est une variante un peu plus symétrisée de la règle de Clint pour les coroutines. L'idée, c'est que la précondition P de la commande run-end, en fait, va servir d'invariant. C'est l'invariant qui doit être vrai autour de yield. Donc, avant de pouvoir faire yield, le thread doit garantir que P est vrai, et quand yield retourne, c'est-à-dire quand on lui redonne la main, eh bien, on lui garantit que P est vrai. Par ailleurs, P, c'est aussi la précondition de la commande CI, puisque pour la première exécution de la commande CI, on va démarrer dans un état qui satisfait P, et tous les CI doivent avoir la même postcondition Q, qui est aussi celle du calcul tout entier, puisque on ne sait pas lequel des CI termine en dernier, et donc il faut tous qu'ils fassent tous comme s'ils étaient le dernier à terminer. Donc voilà une règle très simple, et là aussi, elle est joliment symétrique. Et avec ça, on peut vérifier des propriétés de notre schéma producteur-consommateur. Si on se donne un invariant R de X sur la valeur de type X, donc l'idée c'est que toutes les valeurs produites par produce, envoyées par produce, vérifient R de X, et que consume suppose que R de X est vrai quand on l'appelle. Donc c'est l'idée qu'on a une valeur de type T qui est bien formée. Eh bien, on va pouvoir montrer que consume ne reçoit que des valeurs bien formées. Et pour ça, on va prendre comme invariant de la coroutine ceci. Donc si full est vrai, alors l'invariant R est vrai de data, du contenu de la boîte aux lettres. Donc s'il y a quelque chose dans la boîte aux lettres, il vérifie data. Et du coup, ben, on a cette vérification ici. Donc on commence avec P vrai dans le producteur. Après produce, donc on a P et R de X. Là, on fait de l'attente jusqu'à ce que full soit faux. Si full est faux, P en fait ne nous donne pas d'informations, donc on a juste R de X. Maintenant, une fois qu'on a stocké X dans data et mis full à true, là, P devient vrai, et P est vrai de manière non triviale cette fois-ci. Et on peut faire yield, lequel va nous regarantir P, et donc on va pouvoir itérer. Symétriquement, le consommateur, il part avec P, et il attend que full soit vrai, auquel cas ça lui donne la garantie que data vérifie R, l'invariant. Du coup, quand il récupère Y, data dans Y, R de Y est vrai. Quand il met full à false, P redevient vrai. D'accord, P est trivialement vrai quand full est égal à false. Du coup, yield peut être appelé, et par encadrement, il va revenir avec P et avec R de Y, ce qui nous permet de consommer Y, et le contrat de consume est satisfait. Bon. Et comme on va le voir dans quelques minutes, si on a de la logique de séparation, on peut aller plus loin et montrer en fait que... donc là, on a juste montré que consume ne reçoit que des valeurs bien formées du type T, et avec un peu de logique de séparation, on va montrer en fait que consume reçoit exactement les ressources allouées par... que les ressources allouées par produce sont bien transférées à consume l'une après l'autre, et qu'on n'en perd pas et qu'on n'en duplique pas. Et donc ceci m'amène à la deuxième partie du... pardon, troisième partie du cours, qui est de parler de logique de séparation, pour, cette fois-ci, pour les opérateurs de contrôle, genre call CC ou gestionnaire d'effets. Donc, des structures de contrôle plus avancées et une logique qui est plus riche, plus expressive que la logique de Hoare. Et donc, on va faire ça sur non plus un langage impératif, genre Algol, mais un langage plutôt fonctionnel et impératif, un peu comme Camel. L'aspect impératif, ça va être obtenu en ayant des références. Donc, vous savez, une référence, c'est une case d'indirection mutable, c'est comme un tableau à un élément. On l'alloue en l'initialisant avec une certaine valeur, donc ref de E. On peut consulter la valeur courante avec point d'exclamation E. On peut changer la valeur, donc on peut stocker la valeur de E2 dans l'étiquette E1. Et dans le calcul qu'on considère, on peut même libérer explicitement une référence. Auquel cas, on n'a plus le droit d'y accéder. Et le reste du langage, en fait, bah, c'est un petit langage fonctionnel habituel. On a des constantes, des variables, des abstractions de fonctions, des applications de fonctions, une séquence, alors qui est ici un let, puisque donc on exécute E1 puis E2, mais E1 ayant une valeur, on va lier la valeur de E1 à X, et avant d'évaluer E2, et puis une conditionnelle. Ceci dit, oui, on peut noter E1 point virgule E2 pour dire évaluer E1, jeter sa valeur et évaluer E2. C'est juste un let d'une variable qui n'est pas utilisée. Alors un code pas très intéressant, mais enfin qui donne une idée de ce qu'on peut écrire. Let R égale ref de 0. J'alloue une case mémoire initialisée à 0. Je l'appelle R. In, si B est vrai, j'affecte 1 à la case mémoire X, et sinon, je fais rien. Et dans les deux cas, que B soit vrai ou faux, je renvoie la valeur courante de X. Donc ça va être 1 si B était vrai et 0 si B était faux. Bon. Voilà, on dirait du camel. Donc c'est clair. Et donc on va faire une logique de programme pour ce petit langage. Toujours avec des triplets, précondition P, expression E, postcondition Q. Mais maintenant, E étant une expression, E a une valeur. Ce n'est pas juste comme une commande Algol qui se contente de modifier l'état mutable. Là, nos expressions elles peuvent modifier l'état mutable et renvoyer une valeur. Donc la postcondition doit aussi parler de la valeur. Et pour ça, c'est en fait une fonction. Étant donné une valeur de E, vous donne une assertion qui décrit à la fois l'état mémoire mutable à la fin de l'exécution de E, et puis la valeur V renvoyée. Et par exemple, si votre calcul est trivial, c'est déjà une valeur, c'est une constante par exemple, eh bien il satisfait le triplet PVQ si P, la précondition sur l'état mutable, implique Q de V, la postcondition pour cette valeur V particulière. De même, si vous avez un let, donc une séquence avec liaison de la valeur, ben c'est un peu comme la règle de Hoare pour la séquence. Donc on va vérifier E1 avec comme précondition P, une postcondition intermédiaire R, et maintenant on va évaluer E2 avec la valeur X de E1 et l'état mémoire à la fin de E1. Donc avec comme précondition R de X pour un certain X, et a priori tous les X qui satisfont R de X peuvent être préconditions. Donc pour tout x, on va vérifier que sous la précondition R de x, E2 a pour postcondition Q. Et si x n'est pas mentionné dans E2, en fait vous retrouvez la règle de la séquence, la règle de Hoare. Bien. Alors, Ceci dit, on ne va pas utiliser tout à fait les mêmes assertions que dans la logique de Hoare. Donc là, maintenant, ce n'est pas une collection de variables mutables qu'on a, c'est plus compliqué. On a une collection de cellules mémoire et qui peuvent, par exemple, porter plusieurs noms, être passées en arguments à des fonctions, en résultats, bref. Donc on a besoin d'une logique un petit peu plus subtile qui s'appelle la logique de séparation. Et donc, dans la logique de séparation, les assertions, elles décrivent des morceaux de l'état mémoire, donc des ensembles d'adresses, de cases mémoire, de pointeurs, si vous voulez, et leur contenu. Alors, on commence avec des assertions très simples, par exemple, EMP, abréviation de empty, qui dit que la mémoire est vide. Donc, ça décrit un bout de mémoire qui ne contient rien. Une version un petit peu plus intéressante, c'est pur de P, donc où P, c'est juste une assertion vraie ou faux, d'accord, ça parle pas de contenu de la mémoire, c'est juste une proposition logique. Donc ça dit que la mémoire est vide, et par ailleurs, la proposition P est vraie. Donc ça peut servir à décrire, par exemple, un retour de fonction, une fonction qui renvoie toujours un nombre pair, par exemple, et qui touche pas à l'état mémoire. Alors, l'assertion la plus utilisée, c'est L contient V. Donc, ça décrit un état mémoire qui se compose d'une seule case L contenant la valeur V. Donc, on a dit à la fois l'empreinte mémoire, qui est juste le singleton L, et la forme, le contenu effectif de cette mémoire, qui est qu'à l'adresse L, il y a la valeur V. Alors, une variante plus faible, c'est juste de dire l'adresse L est valide. La mémoire, dans ce cas-là, se compose d'une case L qui contient n'importe quelle valeur. Et c'est la même chose qu'il existe V, tel que L contient V. Et donc, ces toutes petites assertions, parce qu'elles portent juste sur des états mémoire vides ou avec une seule case mémoire, on peut les combiner avec deux opérateurs principaux. La conjonction séparante, P étoile Q, qui est vraie d'un état mémoire, à condition qu'il se décompose en deux parties disjointes, une des parties satisfaisant P et l'autre satisfaisant Q. Et puis, celui qui est plus compliqué à comprendre, c'est l'implication séparante, aussi appelée baguette magique ou magic wand en raison de sa forme, que vous voyez ici. Donc P implique Q, c'est vrai, d'un état mémoire tel que si on lui ajoute une partie qui satisfait P, on obtient une mémoire qui satisfait Q. Donc si, ici, vous pouvez lire ça un peu comme une union disjointe, une addition de deux petits états mémoire qui vous donnent un état mémoire plus grand. Et là, c'est une soustraction. Vous prenez le grand état mémoire Q, vous lui enlevez la partie décrite par P, et ça vous donne un état mémoire plus petit. Alors, comment on va utiliser ça? Ben, ça va nous permettre de définir... De définir très, très clairement la sémantique des opérations pour l'état mutable. Par exemple, l'allocation d'une référence contenant initialisée à une valeur V. La précondition, c'est qu'on part d'un état mémoire vide et on obtient une valeur qui est une étiquette L, un pointeur, et donc un état mémoire d'une case L qui contient la valeur V. Et du coup, cette assertion va nous permettre d'exécuter, de déréférencer l'adresse L, puisque la précondition de déréférencement, c'est qu'à l'adresse L, il y a une valeur V. Et la postcondition, c'est qu'on va renvoyer une valeur X qui est égale à V, et on aura toujours un état mémoire où, dans l'adresse L, il y a la valeur V. Savoir donc qu'à l'adresse L, il y a une certaine valeur quelconque, ça nous permet aussi de faire une affectation, de stocker la valeur V à l'adresse L. Et ça va nous renvoyer une valeur, x, qui est garantie d'être la valeur triviale, unité, et un état mémoire dans lequel L est garantie de contenir V. Enfin, si on a un état mémoire avec une case mémoire L et une valeur quelconque, on a le droit de libérer cette case mémoire, et on obtient une valeur de retour qui est la valeur unité triviale, et un espace mémoire vide, puisqu'on a libéré l'adresse L et qu'il n'y avait pas d'autre adresse. Alors on peut se demander, bon, mais comment on va utiliser deux références à la fois, par exemple? J'ai besoin de parler d'un tas mémoire qui contient au moins deux cases. Et pour ça, on a une règle très générale, qui est la règle d'encadrement, la frame rule, qui permet à ces règles, et à toutes les règles de la logique, d'ailleurs, de s'appliquer à des états mémoire plus grands, en disant que ben, le reste de l'état mémoire n'est pas modifié. Donc si vous avez pu dériver PEQ, alors, pour tout état mémoire R, vous pouvez dériver que P étoile R, donc la conjonction séparante de P et de R, comme précondition, on peut exécuter E et obtenir une postcondition qui est la postcondition de E étoile R. Et ça, comme c'est le même R, ça veut dire qu'en fait, tout le reste de l'état mémoire n'a pas changé. Tout ce qu'on savait sur le reste de l'état mémoire qui n'a pas été mentionné par E reste vrai. Et donc ça, c'est vraiment très puissant, parce que ça permet d'abord de raisonner localement sur des codes qui utilisent des pointeurs, des adresses mémoire, sans se soucier des possibilités d'aliasing, le fait que deux pointeurs pourraient être en fait vers la même case mémoire. Par exemple, ici, je pars d'un état mémoire où j'ai deux cases mémoire, L1 et L2. L1 contient 1, L2 contient une valeur V que je ne connais pas. Je change la valeur de L1, et donc en appliquant la petite règle pour l'affectation et l'encadrement, j'obtiens comme postcondition L1 contient 0 et L2 contient toujours V. D'accord ? Et on peut se dire, mais c'est pas vrai, si L1, L2 est égal à L1, le contenu de L2 est changé. Oui, mais si L1 est égal à L2, la conjonction séparante est fausse, la précondition est fausse, et de toute manière, ce raisonnement ne s'applique pas. D'accord ? Donc, voilà, ça permet de raisonner localement avec des garanties très fortes implicites de « il n'y a pas d'aliasing ». Et puis, ça permet aussi de garder trace des ressources, par exemple la case mémoire allouée, et s'assurer qu'on les utilise de manière linéaire ou affine. Donc affine, c'est-à-dire qu'on ne va pas les utiliser plusieurs fois, par exemple on ne va pas libérer plusieurs fois une case mémoire. Et linéaire, ça veut dire qu'on garantit en plus qu'on va libérer à la fin, donc on ne va pas y avoir de fuite. Alors un exemple d'utilisation linéaire d'une référence, c'est ici, let x égale ref de v, je crée une référence, je l'utilise, je la libère. Et ça, on peut vérifier ce code avec la précondition emp et la postcondition emp. Donc si on parle d'un tas vide, on a un tas vide à la fin. En revanche, si après la désallocation, par exemple, on essaye d'utiliser x, ben ça ne va pas marcher, parce qu'on aura, après free de x, on n'aura plus d'hypothèse, l'adresse contenue dans x, x pointe vers quelque chose de valide. Et donc, la vérification échoue, et effectivement, c'est une erreur de programmation, de type use after free. Même chose si on essaye de libérer deux fois, le deuxième free n'a pas la permission. Et si on est dans une logique linéaire, et de séparation linéaire, et si on oublie de libérer, ben, la postcondition empty, elle n'est pas vraie, parce que le tas mémoire à la fin, il n'est pas vide. Il contient encore l'adresse, la référence. Et donc ça, c'est un cas de fuite mémoire qui est détecté. Donc voilà très rapidement les idées de la logique de séparation. Et on va voir, donc, comme je vous avais promis, que sur le schéma producteur-consommateur, ça va nous permettre de faire des choses plus rusées. Donc ici, au lieu d'avoir des conjonctions, j'ai des conjonctions séparantes, bien sûr, et l'invariant R, donc l'invariant R, il décrit également l'allocation et la libération de ressources. Donc produce, donc le R de X, pardon, produce va allouer de nouvelles cases mémoire et les rendre dans son résultat X, et consume va prendre ces cases mémoire et a priori va les libérer, si on veut qu'il ait empty comme post-condition. Donc, il y a un côté, le producteur alloue des ressources, le consommateur les libère, et ça, on va pouvoir en rendre compte dans la vérification, en prenant comme invariant, si la boîte aux lettres est pleine, alors R de data est vrai, sinon, empty. Donc, si la boîte aux lettres est vide, elle ne détient aucune ressource, et si elle est pleine, elle détient les ressources qui viennent avec la valeur data de type T contenue dans la boîte aux lettres. De sorte que si vous savez que full est faux, comme ici au niveau du producteur, alors P c'est empty, d'accord ? Et donc vous allez pouvoir rétablir l'invariant P en mettant une donnée dans data et en mettant full à vrai. Et dans le consommateur, à la fin de cette attente, vous savez que full est vrai, et donc R de data est vrai. Et donc R de Y va être vrai, quand vous transférez data dans Y. Mettre full à false rétablit l'invariant P, et yield préserve l'invariant P, c'est la règle d'encadrement, et du coup, vous pouvez consommer vous pouvez consommer R de Y dans dans Consume. Et donc là, on a montré que chaque ressource allouée par Produce est libérée exactement une fois par Consume. Donc ça veut dire que notre boîte aux lettres, elle se comporte correctement. Elle ne duplique pas de message, elle ne perd pas de message. Bien. Mais, donc tout ça est très joli, et on peut faire de très belles vérifications, mais ça casse quand on a des opérateurs de contrôle. Donc rappelez-vous le fameux call CC, par exemple, qu'on peut vouloir ajouter à ce langage. Eh bien, call CC, il est capable d'invalider ne serait-ce que la règle de la séquence, la règle du let, parce que si E1 capture sa continuation, qui est juste le début de l'exécution de E2, on peut se retrouver avec un E2 qui va être exécuté plusieurs fois, la première fois dans un état mémoire qui satisfait la postcondition de E1, et la deuxième fois dans un état mémoire complètement différent. Exemple, donc c'est tiré d'un article récent de Timani et Birkedal. Alors l'exemple est un peu compliqué, mais bon. Donc on alloue une case mémoire X contenant 0 initialement, et on appelle une fonction f, donc f c'est une fonction qui renvoie une fonction qui nous est donnée en argument ou qu'on a dans le contexte. On appelle une fonction f sans lui donner x, donc a priori elle ne peut pas modifier x, et puis f nous renvoie une autre fonction g, on incrémente x, on appelle g, on finit l'appel de f d'une certaine manière, et on renvoie la valeur de x. On s'attendrait, puisque g, f et g n'ont pas accès à x, que x soit 0 ici, 1 ici, 1 ici, et donc que E s'évalue à 1. Alors, encore une fois, donc, par exemple, sous hypothèse que F est une fonction pure, qui renvoie une fonction pure. Donc vraiment, un contrat très très... qui permet à F de ne faire aucun... qui interdit à F de faire tout effet de bord. Bon. Bien. Sur l'état mémoire. Mais... si vous avez call CC et vous implémentez f comme ceci, donc f c'est une fonction qui prend unit, qui capture sa continuation k, qui vous renvoie une fonction qui prend unit et qui relance la continuation k sur la fonction triviale lambda unit unit. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la première fois, donc on passe dans ce code, g ça va être le lambda vide throw machin bidule, donc on exécute l'incrément de x, on exécute g qui relance la continuation k, qui nous fait revenir ici, avec maintenant g qui est la fonction triviale lambda unit unit, et on réexécute l'incrément, on appelle g qui fait rien, et on renvoie 2, et non plus 1. D'accord? Donc l'incrément a été fait deux fois. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut réparer notre logique de programme pour arriver à dire des choses alors même que cette règle let en particulier n'est plus toujours vraie? Donc Timani et Birkedal, ils proposent en fait de définir une logique de séparation avec des triplets PEQ, mais seulement pour des programmes complets E. Donc rappelez-vous, quand on a donné la sémantique à call CC ou à d'autres opérateurs, on a toujours considéré des programmes E qu'on peut complets, qu'on peut décomposer en C de E1. C c'est un contexte d'évaluation, E1 c'est une sous-expression qui peut se réduire. Et en fait, on peut donner des règles de logique pour des programmes entiers décomposés de cette manière. Et en fait, ce sont des règles qui ressemblent énormément aux règles de réduction, aux règles d'évaluation. Par exemple, si dans votre programme, vous avez en position active un appel de fonction, lambda x.e appliqué à v, eh bien, vous pouvez remplacer par e ou x, le corps de la fonction e où x devient v, dans le programme, et si tout le triplet que vous allez montrer sur ce programme réduit, ils sont vrais aussi pour le programme avant réduction. Même chose si vous avez une conditionnelle dont vous avez pu résoudre la condition, et même chose si vous avez un call CC ou un throw. La règle du call CC, elle vous dit, bon d'accord, il faut montrer un triplet sur C où V est appliqué à la forme spéciale compte de C, donc ça c'est la capture de la continuation. Et la règle pour throw, de cette forme spéciale, compte de D appliqué à V, vous dit, bon d'accord, ce triplet elle est vrai, il est vrai si vous pouvez montrer qu'il est vrai pour D de V, donc D de V c'est ce qu'on obtient quand on relance la continuation, on jette le contexte courant, on remet à la place le contexte capturé. Bon. Et c'est vraiment une paraphrase des règles de réduction. D'ailleurs, voilà un petit exemple. On peut montrer qu'en partant d'un état mémoire vide, ce call CC de lambda x, rho k de 5 plus 4 plus 2 va vous renvoyer 7 parce que ben, on applique la règle du call CC avec le contexte true plus 2, ça nous donne, ça nous capture le contexte true plus 2, ça nous met le throw en position active, et le throw en position active, on peut le réduire en 5 plus 2. Et donc ce triplet étant trivialement vrai pour 5 plus 2, il est vrai pour ce programme tout entier. Bon, on peut dire, mais c'est trivial, il suffisait d'exécuter le programme pour conclure ça. Et ce qui est beau dans cet article de Timani et Birkelal, c'est qu'ils arrivent à montrer des résultats non triviaux, allant jusqu'à une petite bibliothèque de threads coopératifs, avec des règles comme ça. Alors, ils ne raisonnent quand même pas toujours au niveau du programme tout entier, et ils introduisent ce qu'ils appellent les triplets valides dans tous les contextes, donc que je note un peu différemment, avec une double paire d'accolades, comme étant justement des triplets qui valident une règle de passage au contexte, celle qui dit que si E est en position active dans le programme C et valide ce triplet PER, alors pour toute valeur V qui satisfait R, il suffira de montrer que C de V satisfait Q. Et ce qui est intéressant donc, dans ces triplets à double accolade, c'est qu'on peut définir des règles qui ressemblent beaucoup aux règles de déduction usuelles, mais qui sont valables pour toutes les expressions E, sauf bien sûr celles qui impliquent call CC et throw. Donc ça permet de raisonner sur les parties pures du programme, d'une certaine manière, celles qui ne jouent pas avec les continuations comme d'habitude. Et pour les parties qui manipulent les continuations, on retrousse ses manches et on utilise ces horribles règles qui paraphrasent essentiellement la sémantique opérationnelle. Bon. Alors est-ce qu'on peut faire mieux ? Est-ce qu'on peut faire mieux si on a des continuations un peu mieux délimitées que celles de call CC ? Alors la réponse est oui, et on va le voir en faisant une logique pour les gestionnaires d'effets, les effets définis par le programme. On se dit que ça devrait permettre un raisonnement plus simple que call CC, parce que d'abord on a des continuations délimitées, et puis on a un peu plus de structure, on peut peut-être déclarer à l'avance des contrats, des post-conditions, des préconditions pour les effets. Mais en fait, ce qui va faire marcher la logique, parce qu'il nous permet d'avoir une logique plutôt jolie, c'est si on se restreint à des continuations à usage unique. Donc la continuation capturée par un gestionnaire ne peut être lancée qu'une seule fois, et au plus. Et c'est ce qu'on a dans OCaml 5, tiens, comme par hasard. Et vous allez voir que ça change complètement la chose, parce que si on a des continuations à usage multiple, dans des effets avec des continuations à usage multiple, on a le même problème qu'avec call CC pour la règle du let, par exemple, pour le séquencement. Encore une fois, si E1 peut revenir plusieurs fois, eh bien, cette règle, elle est fausse. Et c'est très facile à faire avec un effet. Par exemple, l'effet flip, celui que j'aime bien, là, qui vous renvoie un booléen tiré au hasard. Enfin, d'abord vrai, puis faux, ou l'inverse. Eh bien, si donc vous faites let B égale perform de flip, et puis que vous incrémentez X, eh bien, et avec ce gestionnaire, donc qui rappelle la continuation de flip une fois avec faux, une fois avec vrai, eh bien votre incrément de x, il est exécuté deux fois, et non pas une, comme le prédisait cette règle. Et donc, la règle, elle n'est pas valide. Mais on va voir que si on se restreint à des continuations à usage unique, on peut faire beaucoup mieux, et en particulier préserver cette règle. Donc c'est l'approche développée par Paolo de Villegna et son directeur de thèse François Petier dans cet article et dans la thèse de Paolo, donc publiée récemment. Et leur idée, c'est d'abord de définir ce qu'ils appellent des protocoles d'effets, donc c'est une spécification des comportements des effets. C'est une espèce de contrat entre les codes qui vont lever les effets et les gestionnaires pour les effets correspondants. Alors c'est quoi un protocole psi ? Alors il y a le protocole très simple, bottom, qui consiste à dire aucun effet ne peut être levé, point. Bon. Et puis il y a la combinaison de deux protocoles, psi 1 et psi 2, qui dit bon, ben, tous les effets qui sont permis par psi 1 et tous les effets qui sont permis par psi 2 peuvent être levés. Et maintenant il y a le cas de base, donc c'est le protocole pour un effet particulier, grand F. Alors la formule est un petit peu difficile à lire, point d'exclamation x f de v, précondition p, point d'interrogation y, double valeur w, postcondition q. Alors j'essaye de vous le lire à voix haute, ça dit que donc, pour tous les choix de variables x, le programme peut lever l'effet v avec la valeur v, l'effet f avec la valeur v. V peut dépendre des mentionner les variables x, donc ça décrit un ensemble de valeurs que f peut lever, à condition que la précondition P soit vraie. Donc ce n'est pas forcément n'importe quelle valeur, il faut qu'il satisfasse une certaine précondition. À ce moment-là, le gestionnaire, lui, va faire sa partie du travail, va choisir des Y, tel que le résultat W envoyé, tel que le résultat envoyé c'est W, et qu'il satisfait la postcondition Q. Bon. Donc c'est une espèce de contrat entre donc la partie qui lève les faits et qui lance les faits, qui doit garantir P et qui va obtenir en retour une garantie que Q est vrai, et le gestionnaire qui lui va recevoir une valeur avec la garantie P et doit garantir Q à son tour. Alors, quelques exemples de protocoles. Donc, l'effet abort, l'effet qui ne revient jamais. Il a un protocole très simple. Vous pouvez toujours lever abort avec la valeur unité, la précondition triviale true, et en fait, vous obtiendrez une valeur y quelconque, mais avec la postcondition false, c'est-à-dire que vous n'obtiendrez jamais de valeur. Bon, puisque l'effet abort ne revient jamais. Bon, c'était facile. L'effet next qui simule un compteur. On va dire que pour toute n, vous pouvez lever l'effet next avec le paramètre unité, pourvu que l'invariant count de n soit vrai. Et à ce moment-là, vous recevrez la valeur n en retour et la garantie que l'invariant count est vrai, mais pour n plus 1. Et donc ce prédicat abstrait count de n, ça va en fait garder trace de la valeur courante du compteur. Ça peut aussi garder trace de propriétés supplémentaires, par exemple que le compteur est toujours positif. Okay. Et ça va être implémenté par le gestionnaire, par exemple avec une case mémoire mutable ou whatever, mais le client, lui, le code qui lève cet effet, lui, pour lui, c'est juste abstrait. Et en généralisant un peu, vous pouvez faire les effets get et set qui donnent accès à une référence ou qui simulent une référence avec deux contrats, vous êtes la somme plus, l'un qui dit que vous pouvez faire get dans tout état où state de V est vrai, vous obtiendrez la valeur V et state de V sera toujours vrai. Et l'autre qui dit que vous pouvez faire set de V' dans tout état où state de V est vrai, vous obtiendrez la valeur unit et le state de V'. Bien. Et donc, avec donc ces protocoles, on va s'en servir dans un quadruplet de OR, P, E, Psi, Q. Donc P c'est la précondition, E c'est l'expression, Q c'est la postcondition normale, si E termine par une valeur, et Psi, ça dit quels effets E a le droit de lever, et comment ils vont se comporter. Donc c'est un petit peu comme la postcondition J pour les sauts, dans l'approche de Alagic et compagnie, Alagic de Brun et compagnie. Et en particulier, si vous arrivez à vérifier votre E avec le protocole bottom, ça vous garantit que E ne lève pas d'effets, ou alors il gère tous les effets qu'il lève, mais il n'y a pas d'effets qui sortent. Bon. Le protocole, il distribue sur les calculs qui ne gèrent pas d'effets. Donc par exemple, pour envoyer une valeur, il est ignoré. Pour faire un let, il va s'appliquer aux deux parties de la séquence, E1 et E2. Et là où ça devient intéressant, donc c'est la levée d'effets. Donc, quand est-ce qu'on peut faire perform de l'effet F avec une valeur V', précondition P, eh bien, il faut que la précondition implique ce prédicat, psi allows F de VQ. Psi allows F de V' et Q, donc, qui est défini par K sur psi, donc si psi c'est bottom, ben, c'est toujours faux, on n'a pas le droit de lever le moindre effet si psi est bottom. Si psi c'est une somme psi 1 ou psi 2, ben, on a le droit de lever l'effet soit si psi 1 le permet, soit si psi 2 le permet, donc on a une disjonction. Et là où c'est subtil, c'est donc le cas de base, on lève l'effet F avec la valeur V' et on a un contrat de la forme pour tout X, F de V, A, il existe Y, WB. Et donc, quand est-ce qu'on a le droit, justement, de lever F avec V' et postcondition Q? Eh bien, il faut qu'on puisse choisir des valeurs de X qui vont égaliser V' et V. Il faut que A soit vrai, la précondition spécifiée dans le contrat soit vraie. Et, c'est là qu'on sort la baguette magique, à ce moment-là, il faut que, si on nous donne... Le gestionnaire nous donne un choix de Y, une valeur W et l'assertion B correspondante. Il faut qu'à partir de ça, on soit capable de reconstruire notre propre postcondition Q de W. Voilà. À la quatrième lecture, ça commence à faire du sens. Voilà. Mais ça, c'était la partie facile de l'article. La partie plus délicate, c'est comment on décrit les gestionnaires d'effets. Vous avez une expression E que vous voulez gérer avec un gestionnaire pour le cas où elle renvoie une valeur, eval, et un gestionnaire EF pour le cas où elle est un effet. Votre expression E, elle a la postcondition normale Q et le contrat, le protocole Psi. Et votre gestionnaire, lui, il va avoir Psi prime comme contrat, et un contrat qui peut-être dit, par exemple, qu'on a le droit de lever moins d'effets, et puis une autre postcondition Q prime. Et donc, le but du gestionnaire, Eval et EF, c'est comme toujours, c'est d'adapter, d'une certaine manière, le Psi et le Q de l'expression gérée au Psi prime et au Q prime qu'on attend à l'extérieur du gestionnaire. Et donc, c'est capturé par ce prédicat isHandler ici. Alors, il y a un cas facile, si E termine normalement, il termine avec une valeur V qui satisfait Q, la partie eval du gestionnaire est appelée, et donc eval appliqué à V doit vérifier ce quadruplet. Précondition Q de V, postcondition Psi prime Q prime. Bon, et puis là, on est sorti du gestionnaire et c'est facile. Maintenant, quid du cas où E se termine en levant une valeur d'effet V? Donc un effet F avec un argument V', disons, et une continuation K. Donc là, on évalue le gestionnaire EF avec V et K, il est exécuté, et du coup, il doit garantir Psi' et Q' comme postcondition. Ce qui n'est pas facile à comprendre, c'est quoi la précondition? Qu'est-ce qu'il a le droit de supposer, en particulier sur V et sur K? Alors, il pourrait dire quelque chose d'un petit peu compliqué, comme, voyons, si V est de la forme F de V', et que le protocole Psi nous dit que pour l'effet F, il y a une précondition A, une postcondition B, alors EF, il a le droit de supposer que V' satisfait la précondition A, ça a été établi par le code qui a levé l'effet, et la continuation K, qui reprend après le perform, et va supposer que B est vrai, donc B est d'une certaine manière la précondition de la continuation K, et va finir par sortir du gestionnaire, et donc sa postcondition, ça va être Psi' et Q'. Bon, mais en fait, on peut dire les choses de manière un peu plus simple, mais de manière un peu plus indirecte. On va simplement donner comme garantie à EF que V et K sont des valeurs d'effet et des continuations que le protocole Psi autorise. Et donc, on peut supposer que Psi autorise la levée de l'effet V, F de V', avec une postcondition qui va déclencher une postcondition qui est un triplet dehors, qui est la spécification de la continuation. La spécification de la continuation, c'est que la continuation, on a le droit de l'appliquer à W, et elle va finir par garantir Psi' et Q', et elle n'aura pas besoin de plus de ressources ou de plus d'hypothèses. Bon, donc c'est un peu indirect, mais quand on déroule les définitions, ça marche. Et c'est là qu'il y a quelque chose de génial qui se produit. Donc toute cette théorie, bien sûr, est formalisée en IRIS, le formalisme Koch pour formaliser des logiques de séparation. Et IRIS sait distinguer entre assertions persistantes, qui sont vraies toujours dans tous les états mémoire, et assertions non persistantes qu'on a le droit d'utiliser qu'une seule fois dans un état courant. Et en particulier, les triplets dehors peuvent être persistants ou non persistants. Et le triplet qui est utilisé ici, il est non persistant. Et parce qu'il est non persistant, ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser qu'une seule fois. Et donc, il nous donne la permission de lancer la continuation K au plus une fois. Si on lance K, on a perdu toute information sur K et on ne peut plus rien faire avec ensuite. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Et c'est ça qui fait que les règles usuelles de la logique dehors restent vraies pour ce calcul. Voilà. Donc là, j'ai résumé la définition de isHandler. Ah oui, et dernier point, on a décrit ici un gestionnaire superficiel, c'est-à-dire que quand on relance la continuation K, on est sorti du handler. Il est possible aussi de définir un gestionnaire, d'écrire un gestionnaire profond, mais là, le prédicat isHandler devient récursif et c'est un petit peu plus compliqué. Je vous renvoie à l'article. Voilà. Écoutez, je pense qu'il est temps d'arrêter là, donc, et de faire un petit récapitulatif. Donc on a vu les logiques de programme, logique de OR, logique de séparation, elles ont été conçues initialement pour le contrôle structuré, pour des petits langages à la Algol, avec séquences, conditionnelles et boucles. Et en fait, elles sont très robustes. Elles s'étendent assez facilement au go-to, aux sorties prématurées, break, continue, return, aux exceptions, aux coroutines, aux threads coopératifs, comme on a vu aujourd'hui, et aux procédures et aux fonctions du premier ordre. Bon, je ne vous ai pas montré aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas le temps, mais c'est pas trop compliqué. D'autres traits linguistiques, d'autres traits des langages de programmation sont plus problématiques, donc tout ce qui est procédures et fonctions d'ordre supérieur sont généralement difficiles à spécifier, et les opérateurs de contrôle, donc comme callCC ou les effets, les gestionnaires d'effets. Cependant, une fois de plus, dans le cas des effets et des gestionnaires d'effets, on est aidé par la structure supplémentaire qu'ils offrent par rapport à callCC. Et puis, on est un peu sauvé par le fait... Enfin, et le fait que les continuations sont à usage unique fait une énorme différence. Voilà. Donc, pour en savoir plus, alors si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur la logique de hors et la logique de séparation, je vous renvoie à mon cours de l'année 2020-2021, logique de programme, donc les trois premières séances. Et donc, ça, c'est les références complètes des deux articles dont on a parlé, deux articles récents dont on a parlé. Voilà. Et donc, ben, on arrive à la fin de ce cours. Et donc, avant de s'arrêter pour prendre des questions, peut-être un très très bref, enfin quelques mots de conclusion. Donc dans le premier cours, je vous avais promis, je me cite, un voyage dans l'espace et le temps des langages de programmation vus sous l'angle du contrôle, avec une approche descriptive, mais surtout comparative et parfois formelle. Alors vous allez peut-être trouver que j'ai un peu trop insisté sur l'aspect formel, mais bon, c'est dans ma nature, je ne me refais pas. Mais je suis assez content de l'aspect comparatif, parce qu'on a comparé donc, non seulement différents langages entre eux, mais aussi on a mis tout ça en résonance avec, d'une part, les évolutions des styles de programmation, des méthodologies de programmation. Pensez au mouvement vers la programmation structurée dans les années 70, qui est un peu motivé par l'élégance d'Al Gore. Le mouvement vers la programmation déclarative dans les années 1980, qui donne à Prologue son heure de gloire. Le mouvement vers la programmation monadique dans des langages comme Haskell à partir des années 90, et puis plus récemment dans Rust. Mais il y a aussi, bien sûr, résonance avec des avancées en sémantique des langages de programmation. L'invention des continuations, l'invention des monades, l'invention des effets algébriques, tout ça, ça vient de considérations de sémantique formelle. D'accord ? Et ça a été fait par des gens qui ne programment pas. Et puis, on finit par comprendre qu'est-ce que ça veut dire en termes de langage et en termes de structuration de programme. Alors justement, ben les effets algébriques et les gestionnaires d'effets, c'est un bel exemple de concept d'origine sémantique qui est en train de se propager dans les langages et peut-être donner naissance à un nouveau style de programmation, je ne sais pas du tout. En tout cas, je suis très heureux d'avoir pu partager ce développement très récent avec vous. C'est une des missions du Collège de France, enseigner la recherche en train de se faire. Et j'ai l'impression de l'avoir fait un peu mieux cette année que les années précédentes. Et donc voilà, donc je vous remercie encore pour votre attention et pour votre fidélité à ce cours.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.